Radio Prague, les informations.
Nicolas Sarkozy pourrait se rendre en République tchèque début juin. Mirek Topolánek a discuté à la Maison Blanche avec George Bush sur la base radar américaine. La Commission européenne soumettra le mémorandum menant à la suppression des visas américains pour les ressortissants tchèques à une analyse juridique. D'après le quotidien Mladá Frontanes, le président de la République française, Nicolas Sarkozy, pourrait se rendre en République tchèque début juin. L'information reste à prendre encore avec beaucoup de réserves. Un des thèmes principaux de la visite serait évidemment la coopération franco-tchèque dans le cadre des deux présidences successives des deux pays fin 2008, début 2009. En attendant, c'est le ministre des Affaires étrangères français Bernard Kouchner qui est attendu en Tchéquie dès le printemps. Ce mercredi à Washington, où il est en visite, le premier ministre tchèque Mirek Topolánek a discuté avec le président américain George Bush des modalités d'installation de la base radar, élément du bouclier antimissile que les Américains veulent installer en Tchéquie. À l'issue de la rencontre à la Maison Blanche, le président américain a déclaré qu'aucun accord n'a encore été conclu, mais que celui-ci était très proche, et de souligner que le système envisagé n'était pas dirigé contre la Russie. Selon Mirek Topolánek, il ne reste que de préciser quelques petits détails dans le texte de l'accord principal. La Commission européenne se réserve le droit de prendre d'éventuelles démarches juridiques à l'égard de Prague en raison du mémorandum tchéco-américain qui a été signé mardi à la Maison-Blanche par le ministre de l'Intérieur Ivan Langer et menant à la suppression de l'obligation de visa pour les ressortissants tchèques voyageant aux États-Unis. Une des conditions de l'accord prévu dans le document serait que les ressortissants voyageant sans visa devront communiquer un certain nombre de données aux autorités américaines, comme la date de départ du sol américain ou un numéro de téléphone. La Commission apprécie en outre le fait que les Tchèques aient informé Bruxelles de leurs négociations avec les Américains. Jiří Paroubek, président du Parti social-démocrate, principal parti dans l'opposition, est en visite en Syrie. Ce mercredi, il a discuté avec les représentants du parti BAS. D'après ses propres paroles, ces conversations n'avaient pas de contenu politique précis. Pour réfuter certaines critiques à l'adresse de son voyage, Jiří Paroubek insiste sur ce que ses visites en Syrie avaient été auparavant consultées avec le ministère des Affaires étrangères et que sa délégation était accompagnée de l'ambassadeur tchèque en Syrie. La météo prévoit un léger refroidissement pour jeudi. Le jour de fête de tous les Lumières, le ciel sera presque couvert et les températures diurnes varieront entre 8 et 12 degrés. Des précipitations sont également à attendre sur une grande partie du territoire. C'était le journal présenté par Anna Gebertova.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de ce nouveau tour d'horizon de l'actualité tchèque. Un moment historique, c'est ainsi que le Premier ministre Mirek Topolánek, en voyage aux États-Unis, a qualifié la signature de la lettre d'intention devant mener dès l'automne prochain à la suppression des visas pour les ressortissants tchèques voyageant aux États-Unis. C'est bien entendu le thème principal de cette édition. Le projet de loi devant lui permettre la réforme de la police et de ses compétences, votée par le gouvernement. Le veto opposé par le président de la République à une loi sur la protection des animaux, et plus précisément du renard lors de sa chasse par le terrier, ou encore la première de la pièce de théâtre franco-tchèque « J'étais Don Quichotte » seront les autres thèmes abordés dans ce prochain quart d'heure. Mais en attendant de développer tous ces titres, l'ensemble de l'équipe de la rédaction française de Radio Prague vous souhaite une agréable réception de son programme. Le ministre tchèque de l'Intérieur Ivan Langer et son homologue américain Michael Tchertoff ont signé mardi à Washington une lettre d'intention visant à la suppression du régime de visa pour les ressortissants tchèques désirant se rendre aux États-Unis. Une signature que le Premier ministre Mirek Topolánek, reçu ce mercredi à la Maison-Blanche par George Bush, a comparé au démantèlement du rideau de fer après la chute du mur de Berlin en 1989. le rêve de plusieurs générations de Tchèques qui se réalise. C'est en ces termes que Mirek Topolánek a commenté la signature du document de 8 pages dans lequel sont spécifiées les différentes étapes qui, d'ici à octobre ou novembre prochain, doivent mener à la suppression de l'obligation de visa pour les Tchèques voyageant aux États-Unis. Cet accord précise que les deux parties doivent encore convenir de certaines mesures d'exécution portant sur la manière dont les informations sur les voyageurs tchèques seront transmises aux autorités américaines afin de s'assurer qu'aucun terroriste ne figure parmi eux. Il n'en demeure pas moins que si ces mesures étaient remplies, la République tchèque pourrait être le premier pays d'une longue liste d'attente auquel les États-Unis permettraient à ses ressortissants d'entrer sur leur territoire sans visa. Dans un proche avenir, les Tchèques n'auront donc plus besoin que d'un passeport électronique pour voyager outre-Atlantique. Ce nouveau passeport, contenant certaines informations biométriques, comme les empreintes digitales et une image du visage numérisé, est réclamé par les États-Unis à tous les citoyens des 14 pays de l'Union européenne, actuellement exemptés de visa, et ce, afin de lutter contre le terrorisme et l'immigration clandestine. Par ailleurs, les Tchèques seront également soumis à l'autorisation électronique de voyage, système mis en place par le ministère américain de la Sécurité intérieure et qui recueille certaines données privées sur les voyageurs. Cette autorisation, qui demande notamment aux voyageurs de fournir des informations détaillées sur leur séjour aux États-Unis, s'obtiendra en remplissant un formulaire en ligne. De leur côté, les autorités tchèques s'engagent à transmettre des informations biographiques et biométriques sur ces passagers. La signature de cette lettre d'intention a toutefois été accueillie avec une certaine réserve par l'Union européenne, un régime de visa étant encore appliqué à 12 autres pays membres dans la même situation donc que la République tchèque actuellement. Bruxelles redoute notamment la quantité d'informations que la République tchèque fournira aux États-Unis sur ses passagers et que le document signé ne cadre pas avec ses exigences. Certains États européens considèrent, eux, la démarche tchèque comme prématurée et regrettent que Prague n'ait pas agi en collaboration avec eux. Des reproches rejetés par le ministre de l'Intérieur, Ivan Langer.
Le texte de la lettre d'intention est un document sans engagement juridique. C'est une déclaration politique forte sur ce que nous voulons encore faire et en aucun cas il ne s'agit d'une politique qui devrait signifier un quelconque manquement à nos obligations vis-à-vis des autres pays membres de l'Union européenne. Néanmoins, nous pouvons dire que nous prenons notre destin entre nos mains, que nous suivons notre propre chemin, mais parallèlement, grâce à l'intensité de nos négociations, nous ouvrons un espace pour que les autres pays parviennent également à leur fin.
Même si le quotidien pragois Lidové Noviny titrait en première page mardi une eurodispute à cause des visas, cette réserve des fonctionnaires européens n'a pas gâché l'enthousiasme non fin manifesté par le Premier ministre tchèque lors de la signature. Nous avons réalisé un travail de pionnier pour tous les pays de l'Union européenne et je pense que la Commission européenne le sait bien, a déclaré Mirek Topolánek comme pour clore le débat. Une réforme attend la police tchèque. Le projet de loi sur la police auquel le gouvernement a donné son feu vert devrait considérablement modifier les compétences des policiers. Jarka Gisibilova pour plus d'informations.
Prochainement, les hommes en uniforme policiers pourraient être absents des stades lors des matchs de football et pendant la tenue de grandes manifestations sportives et culturelles. Ils n'interviendraient que si la situation menaçait de dégénérer, d'échapper au contrôle des services d'ordre. Tous les clubs n'ont pas accueilli cette nouvelle avec enthousiasme. On écoute Jakub Otava, attaché de presse du Sparta Prague.
Les compétences de notre service d'ordre et de notre club en général sont assez limitées pour qu'il soit possible d'influencer la situation dans les tribunes des supporters au cas où des troubles se produiraient.
Le ministre de l'Intérieur, Ivan Langer, qui a soumis le projet au cabinet, veut d'un côté débarrasser les policiers d'obligations qu'ils considèrent comme superflues et de l'autre affermir les compétences en rendant l'exercice de leur travail plus efficace.
Nous ne voulons pas avoir des policiers qui soient des facteurs et des chauffeurs conduisant des personnes ivres en cellules de dégrisement. En revanche, nous voulons doter la police de compétences qui lui permettront de mieux lutter contre le néonazisme, l'extrémisme, la prostitution ou le travail au noir.
Les compétences de la police devraient être élargies à d'autres égards encore. Par exemple, en cas de menace d'attentat terroriste, la police pourrait mettre hors service le réseau de téléphone. Elle pourrait aussi intervenir lors des rassemblements privés des néo-nazis. Le projet de loi sur la police modifie également le travail de l'inspection du ministère de l'Intérieur. La nomination de son chef, jusqu'ici compétence du ministre, serait dorénavant entre les mains du Premier ministre. Le but, selon Ivan Langer, est de créer une inspection générale du corps de sécurité qui veillerait au travail des policiers mais aussi des douaniers et du service pénitentiaire. En contrepartie, il s'agirait d'un changement radical qui ralentirait la réforme de la police. Pour cela, le projet respectif sur l'inspection générale sera soumis en deuxième étape à la fin de 2008. Quant au projet de loi sur la police, s'il était adopté par le Parlement et signé par le président de la République, la police réformée deviendrait une réalité dès janvier 2009.
Le président de la République, Václav Klaus, vient d'opposer son premier veto à un projet de loi au début de son second mandat. Il s'agit de la loi sur la protection des animaux, en particulier d'un passage sur la chasse au renard par le terrier, une race de chiens utilisée pour débusquer le renard. Un sujet qui vous est présenté par Alain Slivinski.
Le projet de loi refusé par le chef de l'État a déjà suscité la controverse entre les deux chambres du Parlement. Alors qu'il a été voté à la Chambre des députés, le Sénat était résolument contre. Pourtant, les députés ont aussi réussi à le faire passer et l'avenir de la loi dépendait donc du président de la République. Václav Klaus a décidé de s'engager dans la protection des renards. Pourquoi ? Parce que le projet de loi en question traite aussi d'une méthode d'entraînement des chiens de chasse, plus précisément des terriers. Un terrier, comme son nom l'indique, est un chien destiné à chasser le renard de son terrier, de sa tanière, afin que les chasseurs puissent éventuellement le tirer après. Pour cela, le terrier doit être entraîné dès son jeune âge, à ce qu'on appelle le déterrage du gibier qui vit sous terre, principalement le renard. La loi, jusqu'à maintenant, et dans le respect des normes européennes, ne permet pas le contact direct entre le chien et le renard lors du déterrage. Cela veut dire que dans un terrier artificiel, les deux bêtes sont séparées par une grille. Les chasseurs argumentent en affirmant que cela met en danger la vie des chiens, car ils auraient tendance ensuite à refuser la lutte avec le renard ou à se rendre. En outre, les blessures sont quand même fréquentes lors de l'entraînement, au déterrage sans contact, car les deux animaux peuvent se blesser contre la grille ou les parois du terrier artificiel. Les protecteurs des animaux affirment qu'ainsi, le renard n'est pas mis en danger et qu'il est aussi moins stressé. En plus, cela devrait suffire à l'entraînement du chien. Pourquoi le président a-t-il opposé son veto ? Parce qu'une discussion plus large n'a pas eu lieu. Il a écrit au président de la Chambre des députés, Miloslav Vlček. Ces jours-ci, je reçois un grand nombre de critiques de la part des citoyens et d'organisations professionnelles contre ce projet de loi qui permettrait le déterrage avec le contact entre les deux bêtes. Je pense que le Parlement devrait tenir compte de ces réactions négatives. Le président est persuadé que les deux chambres du Parlement devraient encore examiner ce projet de loi, trouver une solution qui ne soulèverait pas une telle vague de critiques et qui serait dans l'intérêt des animaux. Rappelons que selon la Constitution tchèque, le veto du président peut être annulé par un vote à la majorité de la Chambre des députés, vote qui devrait avoir lieu lors de sa séance du mois de mars.
On passe maintenant à la culture. Samedi 1er mars aura lieu la première de la pièce intitulée « J'étais Don Quichotte » au théâtre Klitspera, Klitsperovo d'Ivadlo, à Hradec Králové en Bohême de l'Est. Ce spectacle, est le fruit d'une fructueuse collaboration entre le théâtre et le metteur en scène franco-espagnol José Manuel Caño López, venu de Tours pour monter la pièce qui se jouera en tchèque et sera surtitrée en français. Anna Kubišta a demandé au metteur en scène de lui présenter le spectacle.
Une réécriture à partir du Don Quichotte de Cervantes. C'est en fait une pièce à la fois sur la création littéraire, à la fois sur les utopies de la culture européenne. C'est l'histoire d'un auteur qui décide de d'écrire son Don Quichotte. Le titre de la pièce, c'est « Je suis Don Quichotte » et qui en fait va s'appuyer sur différentes sources. littéraire, puisqu'il y a eu beaucoup de choses écrites sur le fameux Don Quichotte de Cervantes, à la fois sur un récit de Thomas Mann qu'il avait écrit quand il fit son premier voyage aux États-Unis en 1934, donc à la fois sur le Don Quichotte de Cervantes, et puis à la fois sur d'autres sources du théâtre européen, Hamlet de Shakespeare, Don Juan de Molière, le Faust de Goethe, le Wojciech de Büchner. Et à partir de tous ces matériaux-là, dans une sorte de voyage qu'il fait lui-même sur ce paquebot, il va rêver de Don Quichotte et s'identifier petit à petit au personnage de Don Quichotte.
On le voit bien là, donc d'après ce que vous décrivez, Don Quichotte n'a cessé à travers les siècles, alors visiblement, de fasciner alors les auteurs, les écrivains, les metteurs en scène, les peintres aussi.
Il fascine parce qu'il est la figure de l'humanité, c'est-à-dire c'est à la fois quelqu'un qui rêve d'un monde meilleur, c'est toutes les utopies du bonheur, et à la fois quelqu'un qui rêve de l'amour impossible. Donc une fois qu'on prend ça, tout un chacun, à travers les siècles, quelle que soit l'époque que l'on vit, quelle que soit sa culture, n'a qu'une envie, c'est d'être heureux et d'aimer. Moi, ce qui m'a fasciné, en fait, c'est, si vous voulez, quand on m'a proposé, parce que je suis quand même metteur en scène, français, mais en même temps je suis né en Espagne, en Andalousie. Quand des Tchèques m'ont demandé de venir faire une création à Hradec Králové, ce qui m'a posé question, c'était en fait comment ça se faisait que quelqu'un comme moi se retrouvait ici, en République tchèque, quelles pouvaient être les raisons secrètes pour avoir accepté de passer 2 mois ici, en dehors de l'envie de connaître un pays et puis des acteurs que j'admire beaucoup. Immédiatement, je me suis interrogé sur est-ce qu'il y a une culture européenne, qu'est-ce qui pouvait nous rassembler entre Français, Espagnols, Tchèques. Et la figure de Don Quichotte s'est assez rapidement imposée comme l'espèce de figure emblématique de notre envie à tous de vivre un monde meilleur et un amour idéaliste.
Voilà, c'est donc avec José Manuel Caño López, metteur en scène de la pièce J'étais Don Quichotte, dont vous pourrez entendre la suite de l'entretien dans la prochaine rubrique culturelle ce week-end, que se terminent ces faits événements. Merci de votre attention et de rester en notre compagnie pour la suite historique de notre programme.
Chapitre de l'histoire tchèque. David Allon.
Durant cette année 2008, nous célébrerons les 70 ans de la crise de Munich qui a vu en 1938 l'Allemagne dépecer peu à peu la Tchécoslovaquie. Focus aujourd'hui sur les réactions d'un homme politique français face à cette crise majeure du siècle dernier, Léon Blum, président du Conseil en 1936 et en 1938. Ou comment, de la guerre d'Espagne à l'invasion de la Tchécoslovaquie, la diplomatie française est restée sur la défensive. Nous sommes en 1938. Hitler vient d'annexer l'Autriche et il se prépare à faire de même avec la Tchécoslovaquie. À partir du 27 juillet, Londres envoie Lord Runciman tenter de négocier à Prague avec Konrad Heinlein, le représentant du parti nazi des Sudètes. Léon Blum écrit alors, dans une sorte d'avertissement à ses amis anglais, « Pour qu'on parvienne à une solution équitable, il est nécessaire que l'influence anglaise se fasse sentir à Berlin au moins autant qu'à Prague. » La France ne voudrait pas que la pression des puissances amies pût conduire au même résultat que la menace d'un coup de force hitlérien. Depuis juin, Léon Blum n'est plus président du Conseil et c'est Édouard Daladier qui le remplace à ce poste. Mais souligner des conséquences similaires entre les choix anglais et les orientations allemandes, voilà qui est provoquant. La volonté est pourtant d'abord salutaire, car Blum espère encore infléchir la diplomatie britannique. Il faut dire que dès décembre 1936, les autorités tchécoslovaques fournissent des informations pour le moins inquiétantes. De passage à Prague en décembre 1936, Robert Blum, le frère de Léon, aurait appris de la part d'Édouard Benesch que les soviétiques s'apprêtaient à passer un accord avec Berlin, ce dont il informe immédiatement Léon. En fait, il se serait agi de manœuvres de désinformation conduites par les nazis eux-mêmes et visant à pousser Staline à exécuter le maréchal Toukhatchevski, l'un des meilleurs chefs de l'armée russe. Rien n'est sûr dans cette affaire, mais l'histoire est étrangement prophétique. À partir de septembre 1938, la crise de Munich bat son plein. Léon Blum comprend que l'initiative anglaise ne vise qu'à donner satisfaction à Hitler. Et il voit alors le lien direct entre cette dernière capitulation et la guerre qui approche, nous le citons. Il n'est pas possible que la souveraineté et l'indépendance de la Tchécoslovaquie lui soient maintenant arrachées, lambeau par lambeau. Ce qui est en cause, c'est le sort de la liberté en Europe, Grande-Bretagne et France comprises. Une certaine fatalité, ainsi qu'une forte autocritique, imprègnent les discours de Blum lors de la signature des accords de Munich. Écoutons-le à nouveau à propos de la visite du Premier ministre anglais Neville Chamberlain et du président du Conseil français Édouard Daladier en Allemagne. Le gouvernement britannique a cédé devant l'ultimatum allemand. Le gouvernement français a donné son acquiescement pur et simple à un plan qui mutile le territoire tchécoslovaque. La partie d'Hitler est gagnée contre l'Angleterre et la France. Son plan est devenu le leur. C'est elle qui l'ont présenté à la Tchécoslovaquie. Au lendemain de la signature, Léon Blum affichera un court soulagement, qui aura tôt fait de l'assimiler aux Munichois, c'est-à-dire dans le langage de l'époque, aux défaitistes. Bien sûr, rien n'est plus faux, la lucidité des discours que l'on a cités le prouve assez. Pacifiste convaincu, à l'instar d'une société française en crise, Léon Blum a pu avoir des moments de faiblesse. Il n'en a pas pour autant été dupe, et a su s'engager, même un peu tard. Il suffit de penser à la guerre d'Espagne, qui illustre 2 ans avant Munich, les mêmes tensions diplomatiques. Léon Blum est alors le président du Front Populaire, au pouvoir en France. Ce rassemblement de socialistes, communistes et radicaux a un frère jumeau en Espagne, le Frente Popular, qui doit bientôt affronter la rébellion franquiste. Blum est pris entre ses velléités de paix et sa conviction antifasciste, doublée de la volonté d'aider un État allié. Mais comme pour Munich, plus tard, le gouvernement français est soumis à une rude pression britannique. L'Angleterre fait savoir qu'en cas d'aide française, elle restera neutre et que son alliance avec la France pourrait même être compromise. Cette situation poussera Blum, à partir de 1938, à pratiquer le concept de non-intervention relâchée, soit des livraisons non officielles d'armement ou d'hommes. C'est dans cet état d'esprit que Blum affronte Munich. Le Blum totalement pacifiste est déjà revenu de ses illusions. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que Léon Blum associe les destinées espagnoles et tchécoslovaques dans un autre de ses discours. En mars 1939, les Allemands ont envahi ce qui restait de la Tchécoslovaquie indépendante. 6 mois plus tard, en août, c'est la signature du pacte germano-soviétique. Blum réagit en ces termes. L'étonnement redouble quand on se souvient que l'horreur et la haine du communisme sont les sentiments par lesquels Hitler a prétendu justifier toutes ses entreprises récentes, y compris la destruction de la République espagnole et de la République tchécoslovaque.
C'est déjà la fin du programme en langue française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité. N'oubliez pas également de lire et réécouter les émissions de Radio Prague sur son site internet au www.radio.cz. Sinon, rendez-vous dès demain près de vos postes, même heure, même fréquence. Ahoy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz.